Canalem, on aime l'été. Eh ben encore un petit lundi matin assez chaud les amis. C'est Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter l'émission Aime l'été. Mais je ne suis pas seule, je suis avec
Anne-Laure Janson. Bonjour.
Alors aujourd'hui à l'émission, oui, un été chaud, 5 canicules déjà, le réseau québécois de villes et villages en Seille vous invite à veiller sur vos voisins. On va accueillir Lauriane Landry qui est agente de projet et responsable de l'organisation de la course lumière à la SAC.
Et nous allons faire plus ample connaissance avec la plateforme d'intelligence artificielle Myéline qui travaille en fait à rendre les informations sur l'autisme plus accessibles. Et elle a reçu des appuis importants du gouvernement, donc son directeur va nous en dire plus. Dominique Tremblay, chroniqueur sport à Ami Télé, nous amène quant à lui faire un petit tour en Angleterre.
Et Serge Bradet, lui, va nous faire traverser notre grand pays jusqu'en Colombie-Britannique, puisqu'il nous présentera une nouvelle chronique historique. Et nous finirons avec une chronique PNL en compagnie de Gaïa et d'Emmanuel Robitaille. Le sujet aujourd'hui, ah là 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 là, la peur de prendre du temps pour soi.
Depuis qu'un soir dans un coin de France, j'ai vu dans l'ombre tes yeux immenses. Mon cœur est enfin plein d'espérance et je pense à toi le jour et la nuit. Mais notre langue n'est pas la même. Et enfin pour te dire que je t'aime, je ne sais pas de plus beau poème que cette phrase de mon pays. On va mieux to shame. Please let me explain. Your grand bannir Mr. Shen veut dire en amour, oh chérie, je suis à toi pour toujours. J'aurais voulu pourtant te le dire tout en français, mais j'ai le cœur battant et c'est en vain. And say you understand. Before, but let me try to explain. By me, this to shame means that you're grand. By me, this to shame, cela signifie que tu es pour moi plus que la vie. Que tu
On vient d'entendre la sympathique Lily T qui reprenait ici ce grand classique de la chanson jazz, Bémère Bis du Chêne.
Ah oui, j'aime beaucoup chanson. Votre accent allemand, Jean-Sébastien, quel bonheur. Mais...
Donc, si ça vous intéresse, c'est tiré de son album T420s, donc du T pour la vingtaine, qui est paru en 2018.
Merci beaucoup. Elle note, oui, parce qu'elle adore ça. Si vous, ça vous intéresse, j'ai au moins diversion.
C'est vrai?
Différente okay. À la maison.
Ah oui,
j'adore. Dont celle, je pense, a été créée par les Andrew Sisters, si je ne m'abuse, dans les années... Oh, je pense que j'étais même pas née. Alors, c'est vous dire.
Tout de suite, au téléphone, on a Chloé Dodino, qui est directrice générale du réseau québécois de villes et villages en santé. Bonjour, Madame Dodino.
Bonjour.
Alors,
bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui de l'importance de prendre soin de ses voisins.
Exactement, oui.
Et dites-nous alors, qu'est-ce qui, si on est timide par exemple, comment on peut prendre soin de ses voisins?
Bonne question. En fait, nous, l'idée, c'est que ça part de petits gestes. Donc, c'est vraiment... en fait, c'est connaître ses voisins. Ça fait longtemps là, que malheureusement, le voisinage a été sous-estimé, mais c'est, on le voit là, en période de canicule ou dans d'autres épisodes climatiques extrêmes, à quel point les voisins sont essentiels. Donc, ça commence juste par un petit bonjour, un petit bonjour, toquer à la porte des personnes pour voir s'ils ont besoin de quoi que ce soit, d'identifier les personnes vulnérables, mais ça commence souvent par un simple bonjour, en fait.
D'accord.
De reconnaître son voisin, exact.
Et votre réseau québécois, comment il est né, en fait, ce réseau de villes et villages en santé?
Alors, il est né il y a 30 ans, à Rouyn-Noranda, en Abitibi. En fait, l'idée, c'était de voir comment, en fait, une communauté en santé n'était pas juste la somme de la santé de la population et de la présence ou la non-présence de maladies, mais que c'était vraiment un ensemble de facteurs d'environnement favorable pour justement développer une qualité de vie et des communautés plus en santé. Et au fil du temps, en fait, de plus en plus de municipalités se sont dotées justement là, d'un même engagement, d'une même stratégie pour devenir ville en santé, et le réseau est né en fait avec cette grande mode.
Et vous avez repris donc la fameuse fête des voisins qui est, je crois, d'origine française?
Exactement. Donc en fait, en 2006, on a repris la fête des voisins, c'est ça, en France, qui était née d'ailleurs après une canicule à Paris. Il y a eu malheureusement plusieurs morts, et dont une personne qui a été retrouvée seulement 3 semaines plus tard. Les voisins s'en étaient absolument pas rendus compte, ne connaissaient pas la personne, et pour le conseiller municipal de l'époque, ça a été vraiment un choc. Et de là est l'idée de créer une fête des voisins pour permettre aux gens de se connaître.
Et Chloé, avez-vous remarqué, moi souvent, autour de moi, j'en parle, on discute, et puis il y a des gens qui me disent, nous, souvent, on ne le fait pas parce qu'on a peur, finalement, de déranger plus que d'aider. Comment on pourrait convaincre ces gens-là? C'est sûr que si on va frapper du matin au soir, là, on s'entend qu'on dérange. Mais je ne sais pas, moi, quand on remarque, par exemple, qu'on voit moins une personne, comment on pourrait convaincre que cette personne a peut-être besoin d'aide? Je vais vous citer un exemple. Il y a quelques années, je me suis blessée aux deux chevilles et je vis seule. Et laissez-moi vous dire que c'était sûrement pas ni mon chat ni mon chien qui pouvaient m'aider à faire mon épicerie. Et les gens me disaient, t'avais qu'à nous appeler si t'avais besoin d'aide.
Ouais.
C'est bizarre cette façon. Et je suis sûre que c'est pas mal intentionné. C'est pas parce que les gens veulent mal faire, mais ils ont peur de, entre guillemets, dérangé. Comment on peut faire pour changer cette mentalité-là, Chloé?
En fait, ça, c'est souvent culturel, hein, ça part souvent de là. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus, en fait, facilitatrices en termes de voisinage. Nous, au fil du temps, avec l'individualiste, on a toujours peur aussi là, de gêner l'autre. C'est là où, en fait, des événements comme la fête des voisins ou des activités beaucoup plus festives, en fait, permettent juste aux gens de se connaître. Donc, quand un accident arrive comme le vôtre, pour un voisin, comme on vous connaît, on est beaucoup plus amené en fait à toquer à votre porte pour vérifier que vous avez besoin de rien ou de comment aider. Donc
vous avez raison,
parce qu'il y a la peur de l'autre qu'on connaît,
c'est
pas
ça.
La peur de l'inconnu,
c'est de créer des opportunités de rencontre, en fait, tout simplement. On parle de la fête des voisins, mais les opportunités de rencontre pour des jeunes familles, souvent de sortir le bébé, ça amène souvent un sujet de discussion,
c'est vrai,
rapidement,
c'est vrai,
dans la rue, puis à ce moment-là on peut connaître les gens autour de nous qui peuvent nous soutenir. Donc par exemple, on doit partir faire une course rapide, vide, puis on est pris, on n'a pas de gardienne. Donc là, le voisin ou la voisine peut être aidant.
Bien sûr.
Voilà. Mais ce que tu soulèves, Clotilde, est intéressant parce que c'est vrai qu'il faut aussi ne pas oublier de demander de l'aide.
Oui.
Quand on en a besoin. Je veux dire, les voisins sont peut-être...
Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Justement,
parfois,
il y a cette bonne vieille peur de déranger.
Ça part de là, de juste aller demander. Et puis les gens sont souvent très serviables aussi. Je sais pas, Chloé, ce que t'en penses, mais...
Ah oui, puis on sous-estime énormément le voisinage. En fait, les gens sont beaucoup plus proches à faire des choses pour leur communauté, à rendre service qu'on se l'imagine. Mmh. On le voit dans des périodes comme le verglas ou ce genre de choses, où là, on a vu vraiment des solidarités qui se sont créées. Mmh. Mais ça peut se faire au jour le jour, très facilement.
Mmh. Alors, au moment du verglas et des coups de chaleur.
Et des coups de chaleur. Exactement. Et donc, Réseau québécois de villes et villages en santé, vous proposez 6 conseils. Qu'un médecin propose pour prévenir des coups de chaleur chez les aînés. Mm-hmm. Vous pouvez nous en énumérer parmi les plus importants?
En fait, parmi les plus importants, moi, j'ai vraiment en fait l'envie, c'est de connaître ses voisins. Ça, je le répète, hein, c'est vraiment le message, c'est de d'identifier les personnes vulnérables, de savoir que tel voisin vit seul, parce que dans ces moments-là, c'est là où c'est le plus problématique. Donc, c'est d'aller vérifier qu'il a besoin de rien, parce que c'est souvent il va vouloir rester chez lui, parce que c'est là où il va avoir le moins chaud. Donc, le problème, c'est qu'après, il va pas aller faire ses courses. Donc, l'aider à ce niveau-là. Ça c'est vraiment essentiel. Autrement, le deuxième aussi là, que nous on préconise, c'est d'insister aussi auprès des personnes vulnérables. C'est que souvent, comme vous disiez, là, les gens vont dire non, je suis correct, mais de quand même des fois un petit peu insister pour dire non, mais on veut pas vous déranger, mais je pense que là il se passe quelque chose. Donc d'être comme un relais avec le réseau de la santé.
Puis les inviter à boire une citronnade.
Exactement.
Je disais aussi faire étendre le linge autour de cette personne pour créer une humidité dans la maison.
Oui, les inviter par exemple,
s'ils
veulent faire les courses, aller dans un centre commercial climatisé, pour pouvoir profiter de la climatisation pendant quelques temps. Ouais, ça aussi, c'est préconisé, ce genre de choses pendant les grandes chaleurs. Ouais.
D'accord. Bah, écoutez, c'est intéressant. Ça nous rappelle l'importance de nos voisins.
Et oui, on vit pas seul en ville. Il y a toujours du monde à côté, bien sûr.
Et donc, à bientôt, peut-être pour la prochaine fête des voisins. Chloé, nous en reparlerons sur nos ondes.
Ben oui, merci beaucoup.
C'était Madame Dodineau, directrice générale du réseau québécois de villes et villages en santé. Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
We'll be right back.
suggestion musicale du jour de notre collègue Luc Fortin. C'était la pièce Gonna Fly Now de Bill Conti, qu'on a reconnu comme étant le thème du premier film de Rocky. Yay. Ça va, Clotilde?
Je vais souffler.
T'assois? Un verre d'eau?
Pourquoi cette musique de Rocky Balboa? Mais c'est pour nous amener la prochaine invitée sur un plateau. Bonjour, Lauriane Landry.
Bonjour!
Lauriane, d'abord faisons connaissance avec vous. Qui êtes-vous, Lauriane?
Donc, en fait, moi, je suis agente de projet pour l'Association sportive des aveugles du Québec depuis déjà un peu plus de 2 ans. Mm-hmm. Et je m'occupe de tout ce qui est programme sportif, principalement jeunesse, mais aussi des événements spéciaux.
Alors, notamment, cette 6e édition de la Course Lumière, à tout hasard, si des fois des gens ne connaissent pas cette Course Lumière, décaissez.
Donc, en fait, la Course Lumière, justement, comme vous dites, c'est à sa 6e édition.
Oui.
Donc, en fait, c'est une course qui a la particularité de se faire dans le noir. Donc, elle commence à 8 heures et on commence, et le coucher du soleil est déjà arrivé. Et elle a l'autre particularité de réunir des coureurs voyants avec des coureurs malvoyants et des coureurs non-voyants. Donc, en fait, on est tous sur la même piste de course, peu importe la vision que nous avons. Et l'objectif, justement, c'est d'amasser des fonds pour l'association dans l'objectif de financer nos programmes.
Est-ce que je vous comprends bien? Ça veut dire que pour les coureurs voyants, quoi, vous leur mettez un masque, quelque chose?
Non, en fait, pour les coureurs voyants, la majorité des gens vont courir normalement, comme on va faire n'importe quelle autre course.
Ah.
La seule différence, c'est vraiment qu'on va être dans le noir. Donc, on va être déstabilisé parce qu'on n'a pas l'habitude de courir le soir. Et c'est pas tout le monde qui a l'habitude non plus de courir au parc Maisonneuve.
Est-ce qu'on éteint tous les lampadaires au parc Maisonneuve? Non, mais je sais pas, c'est une question parce qu'il y en a quand même beaucoup dans un parc.
C'est éclairé. En fait, il n'y a pas beaucoup de lampadaires qui sont dans les environs qui permettent justement de bien voir où est-ce qu'on se dirige.
Le lieu a été choisi.
Exactement. Le lieu a été choisi en conséquence. C'est sûr qu'on met quand même des petits points de lumière, justement, parce qu'on n'a pas cette habitude-là de courir alors qu'il fait aussi sombre, mais c'est sûr que l'objectif, c'est vraiment d'être immergé dans la situation d'une personne qui voit mal et comment je vais faire pour courir seule dans le
D'accord.
noir.
Parlant d'objectif, c'est pas juste pour faire courir des non-voyants avec des voyants.
Non, c'est sûr que c'est pas le seul objectif. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est de financer nos activités. Et dans notre cas, notre objectif cette année, c'est d'amasser 8 500 $ donc de dons qu'on va pouvoir recevoir, que ce soit des coureurs, que ce soit des membres de la famille. Et donc, tout le monde est invité à donner pour nous permettre d'atteindre notre objectif.
Est-ce qu'on a du mal à trouver des candidats pour venir courir dans le noir, qu'ils soient non-voyants ou voyants?
C'est pas quelque chose qui est particulièrement difficile. C'est sûr qu'on a un bon partenaire avec le MIC, avec qui on fait depuis le début cette édition-là de la Course Lumière. Et donc, c'est sûr qu'avec eux autres...
Avec le, excusez-moi, j'ai pas compris.
Le MIC. C'est, donc, la coopérative MIC.
Ouais. Ah, OK, d'accord. C'est une marque de sport. OK, non, c'est...
Oui, exactement. Donc, en fait, c'est sûr qu'eux autres nous aident, entre autres, à recueillir, à convaincre des coureurs à venir, mais aussi, de notre côté, on va toujours chercher quelques coureurs qui sont dans les environs du parc pour les inviter. On invite aussi les clubs, donc tout le monde est bienvenu, mais c'est pas quelque chose de difficile de les convaincre.
Bon, est-ce qu'on peut s'inscrire? Bon, d'abord, c'est quel jour, ça? C'est en début septembre, hein?
Exactement, c'est le samedi 8 septembre,
D'accord.
donc le premier départ se fait à 20h.
Et est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Jusqu'à quand on peut s'inscrire?
Donc, il n'y a pas de problème pour s'inscrire. Donc, si jamais vous êtes une personne qui a un handicap visuel, pour vous inscrire, vous devez communiquer avec nous. Donc, l'adresse pour communiquer avec nous, c'est à animation, à commercial, sport avec un S, aveugle avec un S. .qc.ca. Et si les gens désirent s'inscrire et qu'ils sont voyants, bien, il n'y a pas de problème. Ils peuvent soit aller sur notre site Internet où est-ce qu'on réfère à l'événement sur le site de MEC ou directement aller sur le site de MEC où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire.
Est-ce qu'il y a un travail préparatoire précis, spécial, quand on court comme ça la nuit et qu'on n'a pas l'habitude? Alors, autant pour les non-voyants qui courent, eux, de toute façon, toujours dans la nuit, que pour les voyants qui vont tenter cette expérience-là?
Donc, c'est sûr que pour une personne qui s'entraîne déjà à la course, ben c'est sûr que moi, je suggère quand même de s'entraîner quelques fois à la pénombre pour voir à quel point on va être à l'aise ou pas. Il y a aussi la possibilité de s'entraîner directement au parc Maisonneuve. Donc, l'avantage, c'est que ça va vous permettre d'un petit peu voir c'est quoi le terrain, où est-ce que vous êtes à l'aise ou est-ce que vous l'êtes moins. Donc, c'est surtout d'y aller un peu plus doucement, parce que quand on ne voit pas où est-ce qu'on s'en va, ben on va pas courir à vitesse sprint non plus.
Non,
donc, l'objectif,
sûr.
C'est vraiment de permettre aux gens de s'adapter à la pénombre, mais il n'y a pas d'entraînement spécial à faire avant.
Anne-Laure?
Oui, je lisais que vous aviez, enfin, dans les groupes de personnes voyantes, quelqu'un qui se bandait les yeux?
Oui, en fait, cette année, on suggère, donc si une personne désire courir les yeux bandés, s'il amasse 200 $ de dons pour l'association, donc en fait, nous autres, on lui offre la possibilité de le jumeler avec un guide coureur formé qui a de l'expérience et l'avantage, c'est vraiment de pouvoir courir les yeux bandés. C'est, pour nous, c'est une première expérience où est-ce qu'on l'offre à tous. C'est arrivé à plusieurs reprises que nous avons eu des journalistes qui l'ont fait. Donc, de courir avec les yeux bandés, à chaque fois, c'est des très belles expériences que les gens utilisent.
Oui, et parce que de toute façon, c'est ça, les personnes non-voyantes courent avec un guide dans tous les cas.
Exactement. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont malvoyantes, donc ils vont être suffisamment à l'aise de courir sans guide. Donc, ça dépend toujours de la situation de la personne.
Mmh.
Ou certains qui vont avoir un guide, mais non pas pour lui tenir le bras, par exemple, ou avoir un point de ralliement physique, mais tout simplement d'avoir une personne qui va lui dire « OK, bien là, il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche » parce que la personne ne verra pas suffisamment bien les indications.
Alors, on va peut-être rappeler, s'il vous plaît, Madame Landry, je cherche votre téléphone, Lauriane. Voilà,
oui,
s'inscrit. Voilà, on peut s'inscrire aussi par téléphone.
Oui, exactement. Donc, les personnes peuvent nous rejoindre au 514-252-3178 au poste 3775.
Ou encore par courriel.
Exactement, à animation, à commercial, sport avec un S, aveugle avec un S, .qc.ca.
Lauriane Landry, merci beaucoup et bonne chance pour
plaisir.
Cette sixième édition.
Merci à vous.
Au revoir. Passez
une belle journée. Au revoir.
J'ai vécu.
Chambre avec vue, hein, ça nous rappelle bien des souvenirs. L'avant-dernier album de Feu Henri Salvador, qui nous avait tous mais surpris avec cet album-là. Il avait fait un tabac. Il n'y avait pas une chanson à jeter. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais d'ailleurs, je pense que l'album s'appelait comme ça. De A à Z, vraiment fantastique. Quelques petites brèves, si vous le voulez bien. Vous savez qu'en ce moment, c'est la 28e édition de Présence autochtone, qui se tient à Montréal jusqu'au 15 août prochain. Et dans le cadre de Présence autochtone, il y aura 20 courts-métrages du Wapikoni qui sont programmés, dont 14 lors de la projection spéciale Wapikoni. Le mardi 14 août à 20h30, ça se passe au cinéma de Sèvres, au 1400 boulevard de Maisonneuve-Ouest. Et le lendemain, le 15 août à 16h, se tiendra le panel « Quel cinéma autochtone ?» avec trois générations de femmes qui s'expriment, suivi du film de clôture du festival, un moyen métrage choral du RICAA, qui est l'acronyme de Réseau international de création audiovisuelle autochtone, s'intitulant Le Cercle des Nations 2, les femmes.
Et pour rester dans le cinéma, nous en sommes à la troisième semaine des films de notre vie. Rock de Mers, porte-parole, sera présent le 15 août pour présenter le seul film, je lis le communiqué au programme, pouvant vraiment convenir à des publics de tout âge, Danger pleine lune, donc le 15 août à 17h45. Ce film, combinant prise de vue réelle et animation, a été réalisé par Bratislav Božar, le grand cinéaste d'origine tchèque, maintes fois oscarisé. Donc, Danger pleine lune, l'un des célèbres contes pour tous, sera précédé d'un court-métrage d'animation intitulé Le Clown Faroun, également réalisé par Bratislav Božar, d'après une histoire de Rock de Mers qui sera donc présent ce même soir.
Alors, il me reste un petit peu de temps pour vous rappeler, parce que c'est une excellente nouvelle, que le RAM est maintenant sur Facebook. On avait déjà parlé avec quelqu'un d'ailleurs du RAM qui nous avait fait part de cette excellente nouvelle le jour même où la page Facebook était ouverte. Alors, c'est vraiment facile à trouver, hein, www.facebook.com/RAM.Montréal, RAAMM. Et c'est le regroupement des aveugles et des amblyopes du Montréal métropolitain pour les gens qui l'ignoreraient. Vous écoutez Clotilde Seille et
Anne Janson.
Et c'est l'émission Aime l'été sur Canal M. Restez là.
Vous écoutez Aime l'été.
L'été, nous voici revenus avec un invité que je connais bien parce que je l'avais rencontré. Il était venu à Aime l'été version 2017, donc c'était l'an dernier. Il s'appelle Marc-Olivier Schull. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour.
Marc-Olivier, je vous avais invité parce que vous aviez créé l'an dernier Myelina, on le prononce bien comme
exactement.
Ça, qui s'écrit M-Y-E-L-I-N. Depuis l'an dernier, il s'est passé beaucoup de choses, alors je voudrais qu'avec Anne-Laure et moi-même, nous puissions en parler. D'abord, rappelez-nous ce qu'est myéline.
Myéline, l'idée de base est relativement simple. C'est prendre toute l'information scientifique et la rendre accessible à tout le monde sur plus ou moins n'importe quelle question qu'on se pose, en particulier dans le domaine de la santé et en particulier dans le domaine de la santé mentale et notamment de l'autisme.
En particulier, moi je pensais que c'était juste en matière d'autisme.
Je
me suis trompée.
Mais c'est quelque chose que beaucoup de personnes pensent parce qu'on a commencé notre prototype en autisme. Fait que rassure-toi, tu fais partie des 99,9% de la population. Mais l'idée, c'est que si on arrive à le faire dans le domaine de l'autisme, c'est un concept, c'est une problématique à laquelle on répond qui se retrouve dans tous les domaines. Donc, on pourrait l'étendre ailleurs après.
Oui, vas-y.
C'est ça, ce concept-là, c'est l'intelligence artificielle que vous utilisez pour améliorer la circulation de l'information. Ouais. Alors, expliquez-nous comment vous faites et qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle dans votre cas.
Déjà, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a un problème de circulation de l'information. Là, Un des avantages qu'il y a maintenant, c'est que beaucoup de personnes ont entendu parler de fake news, d'autres choses, ce qui est un problème qu'on entend beaucoup dans plein de domaines, sauf qu'on oublie souvent que ça se retrouve aussi dans le domaine de la santé au sens large. Il y a une véritable guerre qui est en train de se passer pour votre temps d'attention, pour du temps de cerveau littéralement, pour essayer d'influencer les gens à aller choisir plus telle thérapie, tel médicament, bref, pour essayer d'influencer les choix que les personnes vont faire. La seule façon dont on a de se défendre aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver des informations objectives. C'est la mission de la science depuis sa création, sauf que l'information scientifique jusqu'à présent circulait très mal jusqu'au grand public et même jusqu'aux intervenants. L'intelligence artificielle est un moyen pour essayer de répondre à ce problème.
Qu'est-ce que c'est?
J'étais sûr qu'il y avait cette réponse.
C'est ça, okay. Puis c'est quoi l'intelligence artificielle? Je pense que c'est important de le rappeler.
Oui, mais en fait, l'intelligence artificielle est un terme incroyablement vaste qui couvre un ensemble de technologies et qui en fait se résume à faire des choses qu'on considère comme intelligentes. Donc nous, dans notre situation, exactement, automatiser des tâches intelligentes. Ouais. Nous, ce qu'on avait comme problème, c'est que chaque jour, par exemple dans le domaine de la psychologie, tu as 3000 articles qui sont publiés. Moi, en tant qu'humain, lire 3000 articles par jour, c'est impossible. Même en tant qu'organisation, c'est impossible. Il faut avoir des gens qui travaillent pour moi à faire que ce travail-là, c'est ingérable. Et en plus, c'est en augmentation permanente. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on peut utiliser des machines pour traiter cette information? Lire les articles, littéralement extraire l'information, ou si juger la qualité des articles et combiner toutes ces informations-là.
Mais qui fait tout ça? C'est vous?
Alors, à la base, évidemment, il faut des humains qui le font au début, parce que ta machine, tu ne peux pas juste lui dire, tiens, non, voici des articles, débrouille-toi. Ouais. Donc, au début, effectivement, c'est des groupes de chercheurs, c'est des personnes qui, aujourd'hui, passent du temps à extraire les informations une à une pour pouvoir montrer à la machine de voici comment ça se fait, puis qu'ensuite, elle puisse reprendre une partie de ce travail. Donc, là, au début, on s'est dit, elle va peut-être pouvoir reprendre 10% du travail. Finalement, on monte à 20%, 30%. Peut-être qu'à long terme, on pourra se rendre à 90% du travail et que nos chercheurs ne passent pas tant de temps à lire, mais plus de temps à essayer de faire les dernières analyses.
Et ça, dans toutes les langues?
Alors, on commence en anglais parce que le domaine de l'intelligence artificielle s'est développé principalement en anglais.
Mais les articles scientifiques sont aussi principalement en anglais?
Aussi. Sauf qu'il y a aussi des différences, justement, selon les pays, selon plein de facteurs psychosociaux qui existent dans chaque pays. Donc, il faut quand même tenir compte des autres langues. Donc là, on a mis en place un système parallèle où vraiment, il y a des personnes, des langues, notamment du français actuellement, c'est là-dessus qu'on travaille le plus, qui font eux-mêmes l'extraction pour ensuite pouvoir adapter notre système à ces nouvelles langues.
Mais concrètement, en ce moment, je pense par exemple à des parents d'enfants, au singulier ou au pluriel, qui vivent avec une déficience intellectuelle. Concrètement, s'ils veulent aller sur votre plateforme, ils font quoi?
Alors, pour aller sur notre plateforme, là, on a un prototype. Okay. Donc, vous pouvez simplement venir sur myelin.solution. Et l'idée va être que la machine va vous poser des questions en disant, mais pourquoi est-ce que tu es venu aujourd'hui? Si tu poses des questions de, par exemple, si on reprend l'autisme, c'est quoi l'autisme? C'est quoi les causes? C'est quoi les interventions? Qu'est-ce que tu cherches? Et on va continuer comme ça de poser plus de questions. Comme par exemple, tu cherches une intervention, ok, plus pour quel type de problématique? Plus pour quel est le sexe de ton enfant? Quel est l'âge de ton enfant? Jusqu'à ce qu'on puisse dire, ah, pour cette situation spécifique-là, voici les informations scientifiques qui sont les plus pertinentes. Comme par exemple, on peut démontrer que telle intervention serait plus efficace que telle autre intervention.
Et ça, est-ce que c'est le résumé de l'information qui est extraite par la machine ou c'est vulgarisé, expliqué parce que les articles scientifiques ne sont pas accessibles à tous?
Alors ça, c'est le gros défi. Si je te donnais directement l'information extraite par la machine, je te dirais, moi, je suis en train de faire mon doctorat là-dedans et je ne suis vraiment pas sûr de comprendre l'information qui en ressort. Donc, il faut des humains qui font ce dernier travail de vulgarisation puis de dire, OK, c'est ça les données. Voici comment est-ce qu'on va faire en sorte pour que les gens puissent les comprendre. Parce qu'en plus, expliquer à un intervenant ou expliquer à un parent peut être complètement différent. La situation est différente. Même chose si je m'exprime envers un enseignant. Donc, il faut faire ce travail d'adaptation. Puis, heureusement, on a un comité de révision scientifique. On a des personnes qui nous aident dans la vulgarisation pour faire ça.
Alors, je lisais en préparant cette émission-là que depuis l'an dernier, donc notre première rencontre, il y avait beaucoup d'évolutions, notamment dans les partenariats, dans l'ouverture et notamment une ouverture du côté gouvernemental, ce qui évidemment vous réjouit.
Évidemment.
Alors, deux questions, tiens, comme dirait quelqu'un, une question à double volet. Non, mais très, très sérieusement, Marc-Olivier Schull, est-ce que ça veut dire que d'une part, mais il n'y avait pas assez de travail gouvernemental, est-ce que ça veut dire que justement les gouvernements ne répondaient pas suffisamment aux questions?
N'ont pas eu l'idée.
Et qu'est-ce que ça va donner, cette espèce de partenariat avec le gouvernement?
Alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'au contraire, le gouvernement québécois investissait et continue d'investir beaucoup dans le domaine du transfert de connaissances. Enfin, il y a vraiment une grande sensibilité sur la notion, il faut avoir des interventions qui sont solides, soutenues empiriquement, il faut aider les gens là-dedans. Sauf que la question, c'est toujours qu'est-ce que tu donnes comme outil aux personnes qui font ce travail-là. Mm-hmm. Donc, c'est la même chose que si tu veux construire un building de 100 étages puis que je te donne juste des marteaux, tu peux être super motivé puis investir beaucoup, tu risques de prendre énormément de temps. L'idée de Myelin, c'est simplement de dire mais on va donner des outils plus puissants pour mm-hmm. faire cette tâche-là. Donc, évidemment, pour nous, Myelin, c'est une occasion extraordinaire parce qu'on a la possibilité de collaborer et avec des chercheurs et aussi avec beaucoup d'intervenants. Pour le gouvernement, c'est une façon d'optimiser leurs interventions, mais aussi de devenir un leader au niveau international dans l'utilisation d'intelligence artificielle dans ce domaine.
Et le transfert de connaissances, c'est intéressant de la science vers les gens qui vivent ces problèmes, mais c'est aussi intéressant de l'autre côté, n'est-ce pas, de pouvoir savoir quels sont les problèmes terrain pour pouvoir rechercher. Est-ce que Myelin fait partie de ce... Ça pourrait être des collègues de données ou comment
Alors
ça se passe pour les gens qui s'inscrivent ?
Effectivement, quand nous, on en parle, on dit souvent le problème de la science vers le terrain. En disant, aujourd'hui, on utilise 14% de la science, on veut que ce soit 100%. Mais on a effectivement un problème dans l'autre sens. Il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'information sur laquelle on ne fait pas de recherche. Et l'un des avantages de Myelin, c'est que justement, il y a plein de situations dans lesquelles la réponse objective de notre machine est de dire, je ne sais pas, on n'a pas la recherche là-dessus. Sauf que nous, on sait qu'il y a des gens qui demandent cette information. Donc, ça nous permet ensuite de revenir vers les chercheurs, que ce soit au niveau gouvernemental, au domaine académique ou autre, pour dire, écoutez, beaucoup de gens se posent des questions sur ça. C'est peut-être quelque chose qui serait pertinent à rechercher. Donc, effectivement, ça permet de faire de la circulation d'informations dans les deux
sens.
Et
il y a des initiatives qui ne sont peut-être pas citoyennes, mais des parents qui créent des fondations, qui rassemblent des articles sur le DMD, la maladie de Duchenne, dystrophie musculaire, par exemple. Il y a très peu de recherches. Est-ce que ça fait partie on peut le trouver sur Myelin ou...
Ça a été une grande réflexion de notre côté, parce qu'évidemment, quand tu permets à n'importe qui de dire, écoutez, moi j'ai trouvé telle recherche et telle chose, mais là il y a une question de comment est-ce que tu valides tout ça. Donc dans notre version 1, on ne l'avait pas fait. Il y a une possibilité de feedback, mais c'était relativement tout. Par contre, pour la nouvelle version qu'on va lancer vers la fin de l'année, là il y aura une possibilité justement, si quelqu'un a trouvé un article, que ce soit un article qui n'a pas été publié dans les bases de données que nous on cherche, peut-être dans une autre langue, peut-être dans autre chose, de pouvoir dire, écoutez, moi j'ai trouvé tel article qui dit ça. Et ensuite, nous, évidemment, on fait un processus de révision pour être sûr que tout est bien mis. Et ça permet d'essayer de récolter toute cette expertise qui existe chez les parents, chez les intervenants, chez le grand public, tout le monde.
J'imagine que vous vous êtes fait connaître auprès de tous les organismes qui soutiennent, qui agissent pour la communauté de ces personnes.
Oui, évidemment, nous, notre objectif, s'il y a une chose que j'haïs parfois dans le domaine académique, c'est de se dire, on a trouvé la solution, on débarque avec nos gros pieds et on casse plein de choses sur place. Non, l'objectif, c'est vraiment de s'intégrer dans un écosystème qui existe, qui est extrêmement actif, qui fait énormément de bonnes choses. Donc, notre première priorité a été de créer le maximum de collaboration. Que ce soit par des participations dans nos comités, que ce soit dans nos aides, dans nos réflexions, que ce soit simplement de voir nos prototypes puis de dire tout ce qu'on fait faux parce que y a plein de choses, quand on teste des choses, qu'on fait faux. Donc, on a beaucoup de collaborations autant dans le domaine de l'autisme que dans le domaine technologique, dans le domaine scientifique. On est très chanceux là-dessus puis on travaille fort pour pouvoir poursuivre ça.
Marc-Olivier Schulz, c'est vraiment passionnant. Je voudrais que vous nous rappeliez comment on peut aller sur cette plateforme, qui est donc un prototype pour le moment, mais qui est quand même disponible. Malheureusement, en anglais, j'ai tellement hâte aussi que vous soyez en français.
C'est ça tout le défi, c'est qu'on extrait de l'information anglaise, mais on l'amène accessible en français. Donc, pourras y aller. Simplement se rendre sur myelin.solution. Vous arrivez sur un pop-up qui vous dit « c'est en rénovation ». Pas de problème, cliquez dessus et vous pourrez tester autant que vous voulez.
Merci beaucoup, Marc-Olivier.
Merci à vous.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
on s'est rendu à Liverpool, le temps d'une chanson avec les Beatles et la pièce Here, There and Everywhere, tirée de leur album de 1966, l'album Revolver.
Ah, je suis assez contente que ce soit toi qui l'ait désannoncé, celle-ci. On se demande bien pourquoi les Beatles, hein? Eh bien, simplement parce qu'on se transporte, pouf, d'un coup de baguette magique en Angleterre, au pays des Beatles, où nous attend Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour, comment allez-vous?
Mais super bien, Dominique. Pour les gens qui sont des habitués de Ami Télé, ils doivent vous connaître. Dominique, vous êtes chroniqueur en sport à Ami Télé, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Donc, je fais une fois de temps en temps des chroniques pour des sports paralympiques à Ami Télé dans différentes émissions.
Et là, aujourd'hui, tu es... on se dit-tu ou on se dit-vous?
On peut me dire « tu ».
On peut se dire « tu », hein? Ah oui. Ah oui, allez, on se dit « tu ». Allez, 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 soyons fous. Alors, Dominique, tu es en Angleterre et tu nous as proposé qu'on te joigne là-bas pour nous parler de quoi au juste?
Ben, je suis présentement, je suis à Liverpool, donc dans le pays des Beatles.
En plus, oui.
Le 6 août, dans le cadre des championnats du monde de Boccia.
Ah oui?
Qui vont avoir lieu jusqu'au 18 août et je serai de retour au Canada le 19.
Bon, pays non seulement des Beatles, mais des Rouges aussi en soccer.
Oui, ben, en Liverpool, d'ailleurs, j'ai eu une après-midi de congé de la compétition pour aller voir le match de Liverpool contre West Ham hier après-midi dans le stade Anfield. C'était toute une expérience. C'était ma première fois que j'étais dans un stade de la première ligue.
Ah oui, ça chante, hein, en Angleterre. Ça chante, ça...
C'est un niveau complètement différent avec ce qu'on est habitué.
Par rapport aux Sandbell contre les Canadiens. Ouais.
Oui, mais les Anglais, ils donnent pas leur place, là.
Non, c'est ça. Alors, Dominique, avant peut-être qu'on parle de ces compétitions, on sait que l'Angleterre est un pays... très important pour le mouvement paralympique. J'aimerais que vous nous rappeliez pourquoi, que tu nous rappelles pourquoi.
Bien, si on parle des Jeux olympiques, on parle de Pierre de Coubertin,
oui,
qui est le fondateur des Jeux olympiques modernes. Mm-hmm. Quand on parle des Jeux paralympiques, le fondateur s'appelle Sir Ludwig Gottmann,
oui,
qui est originairement d'Allemagne, mais a déménagé juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. Mm-hmm. Il était un médecin neurologue. Et en 1944, le gouvernement britannique lui a demandé de mettre en place des activités sportives pour les vétérans qui revenaient de la guerre,
ah, oui,
qui étaient blessés. Donc, il a mis en place des compétitions de sport pour les personnes qui se déplaçaient en fauteuil roulant, qui avaient été blessées médulaires pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Mmh.
Donc, c'est le père des Jeux paralympiques.
C'est le père des Jeux paralympiques. La première compétition pour personnes handicapées a eu lieu à Stoke Mandeville, qui est en une banlieue de Londres, où c'était un gros hôpital militaire.
Mmh.
Et il y avait 16 athlètes qui ont fait une compétition de tir à l'arc en 1948 pendant que les Jeux de Londres olympiques, les Jeux olympiques de Londres avaient lieu. Donc, c'était comme un petit flash que ça a mis en place. Ça a été la première compétition et ça a amené à ce qu'on parle des Jeux paralympiques maintenant. Là,
qui ont pas mal changé.
Vous savez que j'ouvre une parenthèse. Gutmann, ça veut dire homme bon. En allemand.
Ah oui.
C'est un homme très bon. Il était très aimé de ses patients. Il prenait leur bien-être à cœur et ça a changé la vie de plusieurs personnes handicapées à travers le monde.
Mmh.
Les premiers Jeux paralympiques, pas tout à fait comme on les connaît, mais qui ont commencé, c'était en 1960 à Rome. Et par la suite, le Comité paralympique international a été fondé en 1989, les premiers Jeux paralympiques qui ont lieu dans les mêmes sites de compétition que les Jeux olympiques datent de 1988. Et aujourd'hui, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont reliés ensemble, là, presque, c'est deux semaines après, mais Il y a un lien qui est énorme entre les deux mouvements.
Et énorme. Je suis curieuse, est-ce que le Royaume-Uni fait honneur à Ludwig Gutmann et toujours faire de lance en termes d'accessibilité?
Ce qui est très intéressant, c'est que le 28 juillet dernier, on célébrait le 70e anniversaire du mouvement paralympique. Mm-hmm. Donc, c'était le 28 juillet 1948 que la compétition de tir à l'arc que je vous ai parlé tantôt a eu lieu, et un peu partout en Angleterre et aussi au Comité paralympique international, on en a parlé, et plusieurs athlètes ont mentionné que l'Angleterre est comme le bassin du sport paralympique là, à travers le monde, c'est comme un peu Athènes, on peut retrouver quand on parle des Jeux olympiques.
Dites-moi, la boccia, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, ça ressemble à quoi? C'est comme la pétanque, un petit peu, là. C'est comme un jeu de boules, avec un petit cochonnet. Puis...
c'est ça.
La différence, c'est que c'est un sport qui est pratiqué par les personnes qui sont plus lourdement handicapées.
D'accord.
Donc, souvent, les athlètes qui sont la dystrophie musculaire ou la paralysie cérébrale qui se déplacent en fauteuil roulant motorisé. Et on doit lancer les balles les plus proches possibles d'un cochonnet.
Oui.
Ça se joue à l'intérieur, différemment de la pétanque. Et le cochonnet est de la même grosseur que les autres balles, que soit les balles soient bleues ou les balles soient rouges.
D'accord.
Ça joue soit en individuel ou, dépendant de la classification, ça joue aussi en double ou en équipe.
Et là, le Canada s'est quand même bien démarqué hier?
Ben c'est ça, ils ont commencé la compétition, ils ont eu, je pense, 4 victoires et une défaite. Les rondes préliminaires de individuel se sont terminées aujourd'hui. Il y a 2 athlètes québécois qui vont passer à la ronde éliminatoire des huitièmes de finale.
Mm-hmm.
Alison Levine dans la catégorie BC4. Et il y a aussi Éric Bussière qui, lui, va avoir un travail un petit peu plus complexe. Il va rencontrer le premier joueur mondial, Greg Polychronidis de la Grèce. Ça va être difficile pour lui, mais c'est quand même un bon résultat général pour le Canada.
Bon, alors, God save the players de la boccia à Liverpool et en Angleterre, d'où vous nous parliez, Dominique Tremblay.
Merci d'avoir pris le temps.
Hein? Et puis, je rappelle que vous êtes chroniqueur. Mais non, mais de rien. Hein. Je vous rappelle que vous œuvrez de temps en temps en tant que chroniqueur sportif à Ami Télé. Alors, bonne saison à la rentrée.
Merci. On va être à Ami Télé là, au mois de septembre.
D'accord.
Super.
Eh bien, nous, on continue aussi. Au revoir.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien. Thank you.
je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
Question Clotilde,
oui.
Qui vient donc, qui venons-nous d'entendre?
Nino Ferrer.
Oui, pourquoi? Pourquoi en ce 13 août on écoute Nino Ferrer?
J'imagine que c'est l'anniversaire de cette... La célébration de sa disparition. Il est décédé quand maintenant déjà?
1998, 20 ans aujourd'hui.
Oh. Ça fait pas 20 ans.
Déjà. Ça fait déjà 20 ans.
Et vous savez que ce type-là a mis fin à ses jours. Hein? Pour les gens qui nous écoutent, si vous connaissez mal, deux choses. D'abord, c'est lui qui avait écrit et composé Le Sud. Vous savez, entre On dirait Le Sud, Le temps dure longtemps, etc. Et il y a un groupe de Québécois qui ont repris les chansons de Nino Ferrer sur un excellent album qui est sorti il y a quelques années, qu'on peut encore trouver. Si
comment s'appelle ce groupe?
Ouais, non, c'est un groupe de plusieurs artistes,
okay.
Voilà, qui ont participé comme un collectif. Et voilà, et ça, c'est une chanson particulièrement délicieuse, mais en même temps très triste, parce que je le précise, parce que je l'ai longtemps écoutée, cette chanson-là, sans comprendre de quoi elle parlait, tellement la musique est belle. Mais ce qu'on y dit, c'est que ce type est amoureux d'une fille avec qui il s'est absolument rien passé. Il la reconduit à l'aéroport, elle repart pour le Brésil, et elle dit: moi, je ne verrai jamais cette Bella parce que l'avion n'est jamais arrivé. Alors, excellent. Très très belle chanson. 20 ans, je n'en reviens pas. Vraiment, j'en reviens pas. Une petite brève peut-être avant qu'on se quitte.
Oui, savais-tu, Clotilde, qu'il y a une mission économique LGBT qui est partie du Canada vers les États-Unis? Et cette mission économique, il y a une dame qui a créé la boutique de vêtements adaptés 3e âge qui participe. Donc du 14 au 17 août, elle va être à Philadelphie aux États-Unis. Ils vont rencontrer des donneurs d'hôtes qui ont adopté un programme de diversité pour des fournisseurs avec une certification LGBT. Alors cette propriétaire de la boutique 3e âge, elle vit à Saint-Lambert et elle est très 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 contente à l'idée de se retrouver à cette conférence internationale des affaires et du leadership de la National LGBT Chamber of Commerce of Philadelphie. Et donc Christiane Laurent, elle vend des vêtements destinés aux personnes en perte d'autonomie lourde qui ne peuvent plus s'habiller seules. Ces produits ingénieux facilitent la vie des préposés et des infirmières dans les centres pour personnes âgées et les CHSLD. La mission économique lui permettra de présenter son savoir-faire auprès d'acheteurs et de fournisseurs internationaux, puisque l'événement devrait attirer pas moins de 1300 entrepreneurs, décideurs d'entreprises, dirigeants de chambres de commerce et représentants gouvernementaux de partout dans le monde.
Chouette ! On aime. Tiens, bah écoutez, je saute sur l'occasion, puisqu'on parlait de la communauté LGBT, pour vous dire que le Musée des Beaux-Arts de Montréal célèbre la diversité et le vivre ensemble en partenariat avec le Festival Fierté Montréal, qui bat son plein jusqu'au 19 août. Pour une 3e année consécutive, le Musée des Beaux-Arts de Montréal affiche ses couleurs en étant partenaire du Festival Fierté Montréal. Le musée prendra notamment part aux célébrations en se joignant au défilé de la fierté qui va avoir lieu dimanche prochain, le 19 août, en accueillant notamment une conférence de la militante américaine trans, Miss Major Griffin Gracie, le 17 août, et en organisant une visite exclusive pour les festivaliers, aujourd'hui même, le 13 août. Voilà. Vous comprenez pourquoi on aime l'été ? C'est pour toutes ces bonnes raisons-là, tous ces gens que l'on rencontre le midi, de midi à 13h30, tous les jours sur Canal M. Et aujourd'hui, pour vous, c'est animé par...
Anne Largenson.
Et Clotilde Seuil.
Et...
Vous écoutez Aime l'été.
Alors, c'est une troisième partie de Aime l'été. Nous sommes en compagnie de Serge Bradet. Je suis avec
Clotilde Seuil.
Bonjour, bonjour.
Bonjour. Et après la musique, nous allons parler de l'histoire de la Colombie-Britannique et nous aurons une chronique avec Emmanuel sur la peur de prendre du temps pour soi.
To you, and I walked all night, lost in the silent city lights, thinking of you, wondering will I lose my mind. After all, I'm excited that you're in my life again. After all, I'm delighted to be back where we began. I believe that you can fall in love with me again, and we'll both be standing tall. After all, our way back where we started, there was a part of you that knew I was all that you wanted, but only shadows filled the room. I was lost, in a sleepless empty night, dreaming of you, and in those dreams you were mine. Oh, after all, we're united, yeah, you're in my arms again. After all, I'm delighted, 'cause we're lovers and we're friends. I believe that I can fall in love. In a sleepless empty night, dreaming of you, and in those dreams you stole mine.
Je commence à prendre goût à tenter de questionner votre savoir musical.
Oh là là!
Voulez-vous vous risquer? Il y avait deux voix qu'on vient d'entendre. Non. Deux personnes, deux Canadiens.
Bah. Ils viennent de Colombie-Britannique?
Ben ça, c'est la réponse à la deuxième question que je n'ai pas encore posée. Merci, Anne-Laure.
Voyons, celui qui est super connu,
Brian Adams.
Ah, oui. Et puis, wow. Alors pour un, l'autre...
Il y avait un big band derrière cette chanson-là, dans le monde du jazz...
Michael Bublé.
Et voilà.
Bravo, Clotilde.
Yeah! Est-ce que j'ai le droit de revenir la semaine prochaine?
Non.
Et ça s'appelait After All.
Exactement. C'est de l'album de Michael Bublé. Ces deux artistes qui sont issus de la scène musicale, comme Anne-Laure a bien répondu à la question, de Colombie-Britannique.
Et pour la petite histoire, la semaine prochaine, il y aura Kevin avec Luc.
Ah, bon, alors, bon, bon, bah, alors je ne reviendrai pas. Bon, bah tant pis. Alors, voilà, mardi, c'est sûr. Bonjour, mon ami Serge Bradet.
Bonjour, Clotilde.
C'est pas par hasard si on a parlé de Colombie-Britannique, parce que nous y allons.
Nous y allons, justement, en grande pompe.
Ah, en oui. grande pompe.
Ben oui,
on pourrait y aller en train, on pourrait y aller.
Britannique, on y va, la reine.
Allons-y.
Allons-y.
Ben oui.
Alors, c'est la.
Donc, God la save.
Ah oui, God la save. Alors, la Colombie-Britannique, c'est la dernière province à l'ouest du pays.
Oui.
Alors, elle est vraiment séparée. Hein? Et
pas la moindre,
oui. Et elle est un peu isolée parce qu'elle est séparée par les Rocheuses. Alors, elle est un peu à part, on dirait. C'était vraiment quelque chose de... C'est fascinant pour les gens d'aller en Colombie-Britannique. Hein? Les gens aiment beaucoup ça.
Ouais. Est-ce que culturellement, tu la trouves à part aussi par rapport au reste?
Ben, moi, je suis allé une fois, mais écoute, deux jours. Là. Alors, je ne peux pas dire vraiment, mais ils ont, au niveau culturel... je pense qu'ils ont un peu quelque chose de particulier, les Colombiens britanniques.
Mais c'est quand même canadien, là.
Ah oui, canadien.
On est Victoria.
C'est assez anglais.
Ah oui, c'est ça. Bon.
Alors, la Colombie-Britannique s'appelait autrefois Columbia, en raison du fleuve qui porte le même nom, le fleuve Columbia. La région centrale, au début, avait été baptisée Nouvelle-Calédonie par l'explorateur Simon Fraser.
Ben voyons donc.
Eh oui, toi.
Qui a donné son nom à l'université.
Ouais. Mais pour éviter toute confusion avec la Colombie de l'Amérique du Sud et la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, la reine Victoria... elle-même. Ça vous embouche un coin, Clotilde Arnaud.
Je ne me peux plus.
A mis son poing sur la table.
Ne me peux plus.
La reine Victoria rebaptisa Colombie-Britannique l'ensemble du territoire lorsqu'il devint colonie en 1858, avant d'être une province canadienne, en 1870, je crois. Alors, la Colombie-Britannique, à l'est, elle est bordée par l'Alberta, de l'autre côté des Rocheuses, puis au nord, par le Yukon et les territoires du Nord-Ouest. Et avec les États-Unis, elle a quatre frontières avec quatre États américains. L'Alaska, Washington, Idaho et Montana.
Ah ben!
Elle a beaucoup de voisins.
Ah ben oui. Toi!
La capitale! Particularité de la Colombie-Britannique, comme le Québec, une autre province aussi, et peut-être d'autres provinces et d'autres pays dans le monde, c'est que la plus grande ville, c'est pas la capitale.
Ah!
Voilà. La capitale, c'est Victoria.
Ben, et c'est pas Vancouver.
Non, ben Victoria, parce que c'est la reine.
Oui, oui, alors, c'est bon, ça. Mais Vancouver, c'est beaucoup plus gros.
C'est ça.
C'est ça. Mais la ville la plus peuplée, c'est Vancouver, avec 2,5 millions d'habitants. Puis c'est une population totale de la province de 4 648 000.
Avec alors... combien d'ours?
Oui, ben non, je vais parler tout à l'heure des ours, là, surtout à l'été. C'est la troisième aire urbaine du pays, puis c'est la métropole la plus peuplée de l'Ouest, et la deuxième plus grande métropole du Nord-Ouest Pacifique. Et c'est la troisième province la plus peuplée et la cinquième plus grande entité territoriale du pays. Le nom Vancouver, auriez-vous une idée d'où ça vient, l'étymologie?
Ça vient pas de Véronique Sanson, même si elle a une chanson qui s'appelle « Dans le port de Vancouver ». Là, mine de rien, je viens de lancer un gros appel en régie pour aller me trouver Véronique Sanson dans le port de Vancouver. Allez hop, et je vois les petites mains de Jean-Sébastien en train de s'activer là. Alors, d'où ça vient Vancouver?
Vancouver, ça vient... d'un explorateur dont je parlais un peu plus loin, qui s'appelle George Vancouver.
Ah.
Et qui a été celui qui a fait... britannique. Et qui a fait de l'exploration, une des premières explorations. Pas la première, mais une des premières explorations. Alors, et aussi du patronyme néerlandais Van Coverden, qui s'est pris, qui s'écrit V-A-N... C-O-E.
Vous êtes off mic.
Ah, OK.
Ben oui.
Je me semblais qu'il était trop haut. C'est Jean-Sébastien qui me l'a fait placer à ce moment-là. Alors, ça s'appelle C-O-E-V-O-R-D-E-N. Donc, Vancouverden, Vancouver, voyez-vous un petit peu. Mais Vancouverden, ça signifie du gay aux vaches.
Ah oui?
Ah, oui.
C'est vrai?
Oui.
Vancouver.
Oui.
Ah oui.
Mm-hmm.
Ah bon.
Oui. L'exploration européenne commence au 18e siècle. La Colombie-Britannique est alors peuplée par diverses tribus nord-amérindiennes. Et le territoire est progressivement intégré à l'Amérique du Nord-Britannique, puis devient colonie britannique en 1858 et province en 1871. La province est majoritairement dominée par des chaînes montagneuses. Son relief est très, très montagneux. On connaît tous les Rocheuses, mais il y a également la chaîne côtière, la chaîne des Cassiars et la chaîne Columbia. Ces montagnes recouvertes de vastes forêts ont été érigées il y a des dizaines de millions d'années, vous le comprenez bien, lors de la subduction de la plage océanique sous la plaque nord-américaine. C'est un bon coup, hein, ce matin?
Ouais.
C'est après la fin du dernier réchauffement climatique que les premiers habitants amérindiens se sont établis le long des côtes et dans les vallées de la Colombie-Britannique. Les premières traces d'habitation remonteraient entre 6000 à 8000 ans. Mm. Ouais, quand même assez, assez loin. Le premier voyage documenté d'un Européen dans la région est celui du navigateur espagnol Juan José Pérez Hernández en 1774, qui approcha des côtes de la Colombie-Britannique, mais sans y aborder. L'année suivante, l'Espagnol de la Bodega, y Cuadra, fut le premier à explorer la région. Cependant, il est possible, on dit bien possible, que Francis Drake, le navigateur anglais, et Juan de Fuca, un pilote grec au service de l'Espagne, aient exploré la région dès le 16e siècle. Aient exploré, on n'est pas sûr, mais...
Mm-hmm.
Le détroit entre l'île de Vancouver et l'État de Washington porte toujours le nom, d'ailleurs, de Juan de Fuca. James Cook, le navigateur britannique, visita les côtes de l'île de Vancouver en 1778, et George Vancouver, qui avait accompagné Cook en 1778, revint en 1792 pour faire une exploration plus détaillée de la région.
Okay.
Et c'est là que ce que je vous disais tout à l'heure, et ce qui a déterminé une fois pour toutes qu'aucun passage maritime au sud du détroit de Bering ne permettait l'accès à l'Europe. Souvent, ça a été le grand le débat des explorateurs pour aller en Chine ou pour retourner en Europe. Est-ce qu'on peut passer par le haut et
on a
découvert que c'était juste par le bas, en bas de l'Argentine et du Chili.
Encore un petit truc avant qu'on se quitte?
Oui.
Oui, petite information.
La Colombie-Britannique est entrée dans le Canada. Elle avait mis une condition, à condition qu'on construise un chemin de fer qui relie l'est à l'ouest du pays. Et il y a quelque chose dont il faut parler, mentionner, c'est que, comme aux États-Unis, quand est arrivée la Seconde Guerre mondiale, les Japonais ont été emprisonnés, déportés, on leur a confisqué leurs biens suite à l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Et d'ailleurs, le gouvernement, je me rappelle que c'est le gouvernement Harper qui a présenté des excuses officielles de l'État canadien aux Japonais de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez, il y a 27% de la population d'origine immigrante. Mm-hmm. Vous avez, on parle le Panjabi, le cantonais, le mandarin, le philippino, l'allemand, le coréen, l'espagnol, le persan, l'hindi, le vietnamien, le russe, l'italien, le japonais, le néerlandais, l'arabe, le portugais et le polonais.
Ah non, c'est fou. Et je pense que c'est le chinois qui, après l'anglais, est la deuxième langue officielle. Ouais.
La plus parlée, en tout cas.
C'est la plus parlée.
Et on m'a dit, je ne l'ai pas vu moi-même, là, mais apparemment, il y a des noms de rues qui sont en anglais traduits en chinois.
En chinois, ça me surprendrait absolument pas. Merci beaucoup.
Plaisir.
Serge Bradet, est-ce que nous avons Madame Véronique Sanson? Alors, on y va tout de suite dans le port de Vancouver.
Merci, Serge.
Bye.
Ça, je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut. Ils vous accueillent avec des rires et des bravos. Les vapeurs d'alcool, ça, je les connais bien. Les cheveux qui collent. We'll be right back.
ça je les connais bien. Les filles qui vont autour des musiciens. Les gens de la nuit qui sont toujours là quand il faut. Ils vous appellent avec des rires et des bravos. Ils sont du silence.
Avec vous aujourd'hui pour toujours la chronique PNL avec notre coach PNL Pro Gaïa. Bonjour.
Salut, ça va?
Ça va bien, toi?
Super bien.
Écoute, excellent. On parle encore de PNL aujourd'hui, on parle encore de programmation neuro-linguistique. Tu peux nous rappeler rapidement c'est quoi la PNL tout d'abord?
Oui, en fait, c'est l'art de reprogrammer son cerveau de manière à penser plus positivement, puis à communiquer ses nouvelles pensées pour atteindre nos objectifs, réaliser nos rêves, puis être bien en dedans.
Et pourtant, on pourrait penser qu'être bien en dedans est synonyme de l'été dans lequel on navigue actuellement. Certains comme des poissons dans l'eau, d'autres pas finalement, parce qu'il y a des peurs, il y a des difficultés qui sont associées à cette période estivale-là.
Oui, oui. En fait, cette semaine, on voulait parler un peu plus. Tu sais, on oublie souvent de prendre le temps, mais sans culpabiliser. C'est devenu quelque chose qu'on ne sait plus comment faire. C'est comme une phobie qu'on a de prendre ce temps-là pour nous. Puis, on le fait un peu plus l'été, en fait. En général, on le fait plus l'été. C'est comme si on méritait plus.
Mais en fait, ce que j'entends, c'est que cette difficulté ou cette phobie de prendre soin de soi ou de prendre du temps pour soi, c'est comme si on était plus poussé à le faire l'été.
Oui.
Et donc, si on a de la difficulté à le faire, ça peut devenir extrêmement... on peut avoir beaucoup de résistance à ça, là.
Oui, oui. Je ne sais pas pourquoi on se sent toujours coupable. Surtout, là... je ne dirais pas surtout. En fait, c'est la génération...
De productivité.
Oui.
On est surtout en Amérique du Nord.
Faut qu'on soit des super... Tu sais, là, je parle au féminin. Des super mamans, des super femmes, des super...
Des super humains.
Oui, des super humains, tu sais, des professionnels, puis il ne faut pas manquer une game de soccer, puis tu sais, on se met beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules, puis au moment, tu sais, on en donne beaucoup aux autres, à nos enfants, hein, mais au moment de s'en donner à nous, on s'en coupable. Puis moi, je me dis toujours, si ton verre à toi, il n'est pas plein, comment tu peux en donner aux autres? Pour moi,
ça ne fait pas de sens, mais en même temps, c'est fou parce que c'est vrai... que cette idée-là d'aller juste s'étendre dans un hamac, dirait qu'il faut le mériter. Il faut avoir fait 4 heures de tondeuse.
Oui.
Puis comme, tu sais...
Oui, puis la bière, hein, tu sais, on va prendre une bière, mais juste après 4 heures.
Oui.
Non, mais c'est vrai, on est comme ça.
On a des conditions.
Oui, toujours.
Pour se faire plaisir.
Oui, oui, toujours. Parce que ça ne veut pas dire parce que je prends une bière peut-être à 10h30 le samedi matin que tout à coup j'ai un problème, tu sais, c'est ou je ne l'ai pas mérité ou tu sais, il n'y a pas, on oublie ça. Puis c'est vraiment quelque chose qui est devenu problématique, je trouve, aujourd'hui.
Oui, parce que quand les vacances sont programmées dans les deux dernières de juillet, bien là, on n'a plus toutes ces demandes extérieures-là qui fait qu'il faut qu'on se trouve des brèches pour prendre du temps pour soi. Là, on en a beaucoup, beaucoup. Si on vit beaucoup, beaucoup de culpabilité, bien...
Oui, c'est difficile. C'est vraiment difficile de se déconnecter, c'est ça. Puis, on sent même paresseux. Hein? Mmh. Tu sais, sincèrement, toi, là, aller prendre une sieste là, le samedi après-midi... Moi, je me sens un peu paresseuse. Je me dis, bien, voyons, comment je vais laisser ma famille, mes enfants, tu sais? On se pose plein de questions. Puis dans le fond, c'est pas ça. Prendre du temps pour soi, là, tu peux pas fonctionner à 100% puis être dans ta tête parfaite si tu prends pas du temps pour arrêter. Il faut que tu te déconnectes pour pouvoir te reconnecter. Donc, c'est super, super important ici de préconiser l'autodestruction. Ça, là, pour moi, c'est s'auto-détruire de penser que tu ne peux pas t'arrêter. Ça, c'est impossible. Puis...
Y a-t-il des solutions?
Ben écoute, oui.
Je t'écoute, puis je suis comme... Clairement, ça touche tout le monde à quelque part, à un moment donné ou à un autre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour ça? Parce que là, le temps du temps libre nous appelle. Il est là.
Oui. Puis il faut en profiter. Il faut arriver à enlever cette culpabilité-là parce que c'est vraiment malsain pour nous. Moi, je suis Miss Solution, c'est sûr. Fait que je t'en ai apporté une aujourd'hui.
Amen. Alléluia.
Gaïa, Miss Solution. Pour arrêter l'autodestruction, comme je disais, ou cette manière de sentir coupable, il faut aller arrêter nos fausses croyances.
Okay.
On a tous des fausses croyances. Puis ça, c'est pas nécessairement de notre faute. C'est pas de la faute de personne, mais on grandit tous en écoutant nos parents, la société, tout ça. Par exemple, pour être performante ou pour être une femme respectée, il faut que tu aies été à l'université, il faut que tu sois en couple, il faut que tu achètes ta première maison avant 30 ans. Tu sais, ça, c'est toutes des fausses croyances qui nous font croire que le succès, c'est ça. Donc, tu arrives peut-être à 31 ans ou tu arrives à 50 ans puis tu n'as pas fini de payer ta maison. Puis là, tu te sens comme si tu n'avais pas réussi. Mais ça, c'est tout du faux. C'est pas vrai. Le succès, c'est pas ça. Mm-hmm. Donc là, je suis un petit peu en train de dévier du succès, mais je te parle maintenant de prendre le temps. Donc, être parfaite, c'est une fausse croyance. La femme parfaite, elle va savoir s'arrêter.
Mais en fait, ça ne dévie pas du tout parce que, à quelque part, quand on essaie d'aller voir, OK, pourquoi j'ai autant de difficultés à m'arrêter, en quoi je dois absolument être performante, déjà, on calme un peu ce qui nous garde dans cette relation-là de culpabilité avec le temps pour soi. Là.
Oui.
Moi, c'est la base. Là,
oui, tout à fait. Mais ce que c'est aller. Bon, comment on fait pour aller voir ces fausses croyances-là? C'est souvent. Moi, j'aime beaucoup écrire. Mm-hmm. Puis à l'écrit, là, c'est beaucoup plus facile de le voir visuellement puis de l'intégrer après. C'est vraiment d'aller voir écris-toi, qu'est-ce qui ferait de toi une personne à succès? Puis écris toutes les choses que, moi, je pense qu'il faudrait que j'aille faire ça, il faudrait que je gagne, je sais pas moi, 150 000 $ à l'année, il faudrait que... Tu sais, va tout écrire ça, puis à côté, écris vraiment. Est-ce que ça, c'est vraiment vrai? Tu sais, pour être heureuse, pour me sentir...
D'essayer de le justifier, puis si on voit qu'on n'est pas capable de peut-être remettre en question affaire-là.
Oui. Va retravailler ces fausses croyances-là. Tu sais, il faut arrêter de penser que pour être... Tu sais, il faut être travaillant dans la vie. OK? Il faut être travaillant. Moi, je peux peut-être travailler 5 heures par jour, mais mon Dieu, que je suis efficiente.
Efficace.
Merci beaucoup, mon Dieu, mon anglicisme. Non,
mais oui, c'est ça, efficiente. Oui. Efficiente, mais ça a été en espagnol. Je pense que ça
aussi
dit...
efficiente.
Tu parles beaucoup en espagnol, effectivement. Moi, je sais, je te connais.
Ben oui.
Mais effectivement, donc, aller travailler ses croyances d'efficacité, là, tu l'as nommé. Et j'ajouterais également de se gâter parce que rien.
Ah oui.
Se gâter parce que rien,
tout à fait.
C'est quelque chose que j'encourage beaucoup et que je travaille énormément moi-même et je suis rendue quand même très bonne et je le conseille à tous de s'offrir du temps parce que rien.
Oui.
Gaïa, merci encore infiniment.
Ça m'a fait plaisir.
Et c'est toujours très, très intéressant. Et pour avoir d'autres techniques et des outils, on peut te suivre également sur ta page Facebook Gaïa Entrepreneur.
Oui, puis n'oubliez pas de toujours célébrer vos petites réussites parce que c'est ça, en fait, la clé du succès.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Alors, je vais faire un petit test auprès de moi parce que je ne peux pas demander directement là tout de suite aux auditeurs. Que retenez-vous là maintenant de cette chronique que vous venez d'entendre, chronique spéciale PNL avec Gaïa et l'ami Emmanuel Robitaille? Par exemple, Jean-Sébastien, qu'est-ce que vous avez retenu de cette chronique?
Je fais un commentaire hors onde, oui. Mais la question d'avoir une belle image publique, je dirais qu'il ne faut pas se comparer aux autres pour mesurer notre succès.
Ouh, c'est pas ça que t'as dit.
C'est pas ça que t'as dit. Alors moi, je vais reprendre ce que t'as dit. L'autorisation de prendre une bière à 9h30 ou à 10h30, mon Dieu, c'est du matin.
Oui, c'est valable aussi.
Parce que c'est ça que t'as dit hors onde. Hein?
Oui, absolument.
Bon. Anne-Laure.
Qu'est-ce que j'ai retenu? Ben oui, c'est ça, de prendre du temps pour soi, c'était pas...
Un
fallait
crime.
Pas se sentir coupable, c'est ça, c'était
c'est
pas
ça.
Un crime.
Exactement.
Mais j'aurais voulu avoir plus de trucs pour pouvoir prendre ce temps, justement.
Bon,
parce
on
que
va...
c'est pas facile quand on a des enfants.
C'est vrai. Hein.
Non.
Oui, parce que vous qui vivez ça, là, c'est la
et
journée...
Et souvent, quand
oui.
ils sont pas là, on se dit, OK, c'est le moment de pouvoir faire ça. Mais
et alors...
pas forcément de prendre du temps pour soi.
Ah non, c'est ça. Alors allons-y pour la lessive. Voilà.
Et autres.
Bon, est-ce qu'on a des petites nouvelles brèves?
Moi, j'ai une campagne percutante de la SPCA de Montréal en prévision des prochaines élections provinciales. La SPCA lance sa campagne animale pour exiger du gouvernement du Québec qu'il encadre le traitement des animaux de ferme. Parce que malgré l'adoption d'un nouveau cadre juridique pour protéger tous les animaux, ceux qui sont destinés à la consommation demeurent exclus des principales protections qu'offre la loi. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs pratiques cruelles, comme la castration à froid, des veaux, des agneaux, sans anesthésie ni analgésie, accourent de façon routinière sur les fermes, ce qui serait illégal, en fait, si c'était pratiqué sur un chien ou sur un chat. Donc, la SPCA s'appuie sur un sondage qui a révélé que 72% de la population québécoise s'attend à ce que ce futur gouvernement adopte des mesures législatives en vue d'assurer le bien-être des animaux du Québec, mais de tous les animaux.
Des promesses. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous vous souvenez, en début de saison, nous avons reçu Monsieur Mbouambo. Bonbois, voilà, je l'ai bien dit, un type fantastique qui a créé le berceau de nos ancêtres. Le berceau de nos ancêtres, ça se passe à Matane, et ce monsieur qui est d'origine du Cameroun a créé un organisme pour aider les nouveaux arrivants qui arrivent dans la région de Matane. Et le 26 août prochain, au parc des îles de Matane, de 15h à 17h, eh bien, ils organisent une danse sportive dont le but est de permettre à la population de la Matanie de sortir de leur isolement, de pouvoir rencontrer le monde, mais oui, de passer un moment de plaisir dans un rythme musical pas comme les autres. Les participantes et participants auront le plaisir et tout le loisir de faire du sport en apprenant des pas de danse, de la musique de plein de pays et de parler ensemble. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette
Merci,
participation.
Clotilde.
Merci Jean-Sébastien pour la musique. C'était Clotilde Saï, à bientôt.
Au revoir.